VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir du président sortant Ali Bongo Ondimba, exhorte aujourd'hui la CENAP, la Commission électorale nationale, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour publier les résultats fondamentalement crédibles de la présidentielle. Les Gabonais attendent toujours ces résultats alors que la CENAP continue ses délibérations. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall. Idriss,
Ça continue depuis hier nuit jusqu'à maintenant. Les représentants de l'opposition sont sortis trois fois, ont fait des consultations. Apparemment, ça bloque sur la province du Haut-Ogooué, d'où est originaire le président sortant Ali Bongo. L'opposition conteste qu'il y aurait presque le même nombre d'inscrits que de votants avec des taux extrêmement élevés et que ce serait un raz de marée Ali Bongo qui permettrait au président sortant de passer en tête. Et d'après les indiscrétions qu'on a déjà eues, c'est que M. Ping serait devant dans 6 provinces sur 8 et jusque-là, on ne sait pas comment est-ce que va être réglée la province du Haut-Ogooué. Donc tous les journalistes sont massés actuellement devant la CENAP en espérant que, incessamment, que quelqu'un va sortir pour donner un verdict.
Quelle est la situation à Libreville? Quelle est l'ambiance? C'est calme pour le moment?
C'est calme, mais la police, les forces de l'ordre sont bien présentes. Elles ont quadrillé les grands boulevards avec des canons à eau, des voitures mitrailleuses. Elles ont bouclé presque le quartier des Jean-Ping. Et la ville, quand même, là, ne peut pas dire qu'elle a repris son cours normal parce que les rues sont encore désertes. La circulation est beaucoup moins dense. Et donc, tout le monde attend s'il va sortir incessamment sous peu des libérations au niveau de la CENAP.
Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville au Gabon. En RDC, le dialogue national démarre le 1er septembre, soit donc demain. Mais les positions des deux des partis en présence semblent plutôt se crisper. Des voix s'élèvent pour dénoncer les tentatives de corruption lors des travaux préparatoires du dialogue, alors que l'opposition proche du rassemblement d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, exhorte les Congolais à se prendre en charge au démarrage de ces assises que le rassemblement boycotte. Le point avec Eddy Issango.
Des révélations de ce qui s'est passé dans les couloirs des travaux préparatoires du dialogue national viennent de certains participants. En témoigne cette déclaration de celui qui était jusque-là secrétaire général du parti des Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation, suivant Bertrand Ewanga.
Les apartés dans les couloirs aux travaux préparatoires. On nous a promis des ministères. Moi, on m'a proposé d'être vice-premier ministre. On m'a même dit qu'il y a des enveloppes qui pourront être données dans les apartés. Mais les rituels de dire nous respectons la Constitution, nous, la résolution 22, mais c'est du bluff ça. Parce que nos amis nous ont dit, vous êtes venus ici pour nous aider à modifier la Constitution et puis le raïs continue. Ça a été dit clairement comme ça.
L'opposant a claqué la porte de son parti qui entend participer au dialogue. Il explique que tout est fait pour que le président Joseph Kabila reste au pouvoir et que le dialogue pourrait être de toutes les façons contourné avec un référendum constitutionnel si jamais une dynamique pour faire partir les présidents en place s'est dégagée. De nouveau, Bertin Ewanga.
La majorité a beaucoup de pièges dans ces dialogues. Ils ont le projet de référendum caché. Ils ont l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est là. C'est-à-dire que les amis qui se retrouvent là-bas, s'ils osent s'opposer au schéma de la majorité, on va fermer cette histoire. Et ils diront, nous consultons le peuple. Je ne pouvais pas cautionner tout ça.
Les porte-paroles du gouvernement, Lambert Mende, qualifient des gros mensonges les dires de l'opposant. Il l'accuse de vouloir plutôt se vendre auprès de Moïse Katumbi, les millionnaires candidats de l'opposition. Pendant ce temps, la frange de l'opposition, conduite par Étienne Tshisekedi, qui a recusé Edem Kodjo, appelle les Congolais à se prendre en charge dès le 1er septembre. L'avis est de Franck Diongo.
Le message est clair. De manifestations dans le sens de exiger le respect du délai constitutionnel qui est bien entendu la ligne rouge à ne pas franchir. Donc l'alternance politique n'est pas négociable pour nous.
Cette frange de l'opposition tient à tout prix à ce que la présidentielle soit organisée avant le 29 décembre, alors que la CENI et le gouvernement veulent négocier pour un prolongement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Somalie, au moins 15 personnes sont mortes mardi dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze appartenant au groupe islamiste somalien Shebab. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de la police de Mogadiscio. Ce dernier a ajouté que la sécurité avait été renforcée dans la capitale où de nombreux soldats et policiers supplémentaires ont été déployés. Crise migratoire, plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe par la Libye et aussi un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan près de la frontière libyenne entre juin et août. C'est ce qu'ont indiqué mardi les responsables des services de sécurité soudanais. Les précisions de John Lyndon.
Au total, 816 migrants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes. Un groupe de passeurs a également été arrêté après des heures avec les forces de sécurité qui ont coûté la vie à deux soldats et un officier près de la frontière libyenne. Juma Fdi Mohamed, un passeur tchadien, a expliqué recevoir environ 986 euros pour chaque migrant qu'il a fait entrer en Libye. Le Soudan est un pays de transit clé, notamment pour les Érythréens fuyant leur pays vers l'Europe. Des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent chaque jour de rejoindre la Libye, d'où ils embarquent pour une dangereuse traversée vers l'Europe. Lundi, environ 6 500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les opérations.
Au Zimbabwe, la police anti-émeute patrouille aujourd'hui dans les rues des principales villes du pays après l'appel à des mouvements de contestation lancés par des groupes d'opposants au président Robert Mugabe. Conflit en Syrie maintenant, le groupe djihadiste État islamique a annoncé hier la mort de son porte-parole, le Syrien Abu Mohamed al-Adnani, tué dans la province d'Alep dans le nord du pays, région ravagée par la guerre. Jacques Aristide.
Abu Mohamed al-Adnani s'était illustré en exhortant les partisans du groupe État islamique à passer à l'action dans leur pays d'origine en utilisant n'importe quelle arme disponible, couteau, pierre ou véhicule, contre les citoyens des pays membres de la coalition anti-djihadiste, un appel qui aurait inspiré des attaques en Europe notamment. Il était le cerveau présumé des attentats qui ont fait 130 morts à Paris l'an dernier. De son vrai nom, Taha Soubi Falaha, Adnani était originaire de Binish, dans le nord de la Syrie. Il était âgé de 38 ans, un des membres influents du réseau djihadiste. Sa tête avait été mise à prix par le département d'État américain pour 5 millions de dollars à travers le programme Rewards for Justice. D'après un message du groupe État islamique relayé par son agence de propagande Hamak, Abu Mohamed al-Adnani a été tué alors qu'il inspectait les opérations militaires dans la province d'Alep, sans toutefois préciser la date de sa mort. La province d'Alep est le théâtre de violents combats entre différents acteurs de la guerre en Syrie, dont le régime de Bachar al-Assad, appuyé par les Russes, les rebelles, les combattants djihadistes, la coalition internationale dirigée par les États-Unis et plus récemment, les forces turques.
Présidentielle américaine 2016, c'est aujourd'hui que le candidat républicain Donald Trump doit prononcer le discours très attendu sur son projet de réforme de l'immigration. Le dossier de l'immigration illustre les différences de perspective entre la candidate démocrate Hillary Clinton et Donald Trump, à commencer par la question de savoir que faire les quelques 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis. Timothée Donangmaï.
Donald Trump a laissé entendre que sa priorité sera de renvoyer tous ces étrangers chez eux. Hillary Clinton, elle, dit qu'elle expulsera en priorité les violents criminels parmi ces sans-papiers. Dans une interview l'année dernière sur la chaîne NBC, le candidat républicain avait dit qu'il veut supprimer le 14e amendement de la Constitution américaine qui accorde à tout enfant né aux États-Unis la nationalité américaine, même quand ses parents sont en situation irrégulière. Selon Donald Trump, cette disposition est, et je cite, « le plus puissant aimant pour l'immigration illégale ». En plus de cela, Donald Trump s'est engagé à ériger un mur le long des 3200 km de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et à en faire assumer le coût par les Mexicains. Le discours qu'il prononcera aujourd'hui dans l'Arizona permettra de savoir s'il a assoupli ses positions sur toutes ces questions ou les maintient.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.